Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dernière émission de la saison, dernier rendez-vous avec dans un instant le duel et le retour sur quelques-uns des temps forts de ces derniers mois, ceux qui ont marqué Gilles et Natacha. Et puis le débat du week-end, où allons-nous? C'était la question qui était le fil rouge du livre « L'archipel français » de Jérôme Fourquet. Il y montrait les changements des dernières décennies, tout ce qui avait disloqué une nation unie et structurée par des référentiels communs. Où allons-nous? C'est aussi ce qu'a étudié notre invité sur un temps plus court, celui de la pandémie. Un an et demi avec des habitudes, des images inertes, des décisions que nous avons prises comme déménager, consommer mieux, se séparer parfois. Alors notre quotidien a-t-il fait émerger une nouvelle société? On va en débattre avec elle. Elle est sociologue, politologue, prof à Sciences Po et à l'université Paris-Descartes. Elle est aussi la directrice générale de l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. Guénaël Gault nous rejoindra dans une vingtaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Et le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver pour cette dernière, un duel en forme de rétrospective de l'année passée. Au bout de 4 ans, Natacha, je sais que c'est vraiment votre exercice favori, je le dis en souriant, mais vous avez toujours accepté de jouer le jeu. C'est un jeu qui est à la fois subjectif, mais qui est intéressant avec le recul pour revoir, retrouver, relire certains des grands événements de l'année. On va démarrer avec vous, Gilles. Et pour vous, Gilles, l'événement, c'était ça.
Le virus ne pardonne pas les hésitations. Ce virus ne comprend qu'un seul langage, celui de la détermination.
C'était Angela Merkel il y a quelques semaines, le 16 avril, après avoir reçu sa première dose de vaccin AstraZeneca. L'événement de l'année, pour vous, Gilles, c'est la vaccination, la campagne de vaccination.
Il y a 2 ans, quand on aurait fait le même exercice, si on avait imaginé la pandémie, c'était impensable. Il y a 1 an, quand on avait fait le même exercice, si on nous avait dit qu'il y aurait 33 millions ou un peu plus de Français qui auraient reçu leur première dose et près de 3 milliards de terriens, on aurait pensé aussi que c'était impensable, il y a 1 an. Et donc, voilà, l'événement moi que je retiens de cette année, c'est la vaccination, à la fois le prodige de la recherche, la rapidité avec laquelle on a trouvé ce vaccin sans aucune commune mesure avec toutes les recherches précédentes, le prodige de l'industrie, de la fabrication, le fait d'avoir produit malgré tout autant de doses en aussi peu de temps, et puis dans le monde quand même, dans les pays occidentaux, en Europe, le prodige logistique, même si on a été souvent critique, mais enfin, ce début d'été, en cette fin de saison pour nous, moi ce que je retiens, c'est la vaccination qui nous fait quand même regarder un peu différemment à la fois l'été et la période qui suit, même si il reste un plafond.
Dont
on ne sait pas à quel niveau il se situe, mais qui va être le défi de ces prochains mois. Et puis, il y a aussi les risques d'un rebond, les variants, mais quand même, la vaccination.
Alors, nous sommes en période dite de silence électoral. Nous n'avons pas le droit de commenter l'action du gouvernement ou les politiques, Natacha. Mais sur le même sujet, la vaccination, est-ce que vous partagez le même diagnostic et le même espoir que Gilles ?
C'est en effet un événement assez frappant. La capacité de l'humanité à se mobiliser, de la science à mettre en œuvre toutes ces richesses pour aller aussi vite. Bien sûr que c'est extrêmement frappant. Alors après, il y a des enseignements à tirer de la façon dont s'est passée cette campagne de vaccination. Il y a eu des réflexions, nous les avons menées ici, sur ce que ça a révélé du fonctionnement de l'Union européenne. Il y a eu la dimension géopolitique, c'est-à-dire la façon dont chaque pays a joué sa carte, a essayé de montrer à quel point par son propre vaccin, il allait imposer sa grandeur et sa générosité au reste du monde. On l'a vu avec la Chine qui a mené cette politique. On a vu les tentatives de la Russie pour cela. Tout ça aussi nous apprend à quel point un simple phénomène à la fois sanitaire et scientifique devient immédiatement
un rapport,
l'objet d'un rapport de force. Dernier point, il reste encore un élément essentiel, c'est la vaccination des pays les plus pauvres. Et là, pour l'instant, on est quand même très très loin du compte, même s'il y a une mobilisation des pays, notamment des pays européens, pour essayer de donner des vaccins. Là, on va voir aussi si les puissants de ce monde sont capables de se mobiliser pour éviter que nous nous retrouvions avec un nouveau variant, parce que c'est ça l'enjeu. C'est d'ailleurs très intéressant, c'est une obligation de solidarité pour des raisons purement pragmatiques.
Et il fallait écouter Christophe Jaffrelot, le spécialiste de l'Inde, au micro de Fabienne Synthèse cette semaine, pour prendre la mesure justement de la violence avec laquelle ce pays qui est bientôt en train de devenir le pays le plus peuplé au monde était frappé de plein fouet et payé le plus lourd tribut au monde à cette épidémie. Mais Gilles, quand vous parliez de plafond pour la vaccination, c'est ce plafond dont vous nous avez parlé régulièrement qui est lié à ceux qui ne voudraient pas être vaccinés?
C'est ceux qui ne veulent pas du tout et qui ne le disent pas seulement, mais qui ne le font pas. On a vu au cours de ces derniers mois que ce plafond de vaccination baissait régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au début, disaient ne pas vouloir se faire vacciner. Et puis, au fur et à mesure du temps, lorsqu'ils voyaient que la vaccination se passait bien normalement, lorsqu'elle commençait à devenir une norme sociale, lorsqu'ils voyaient aussi les avantages qu'il y avait à la fois individuellement et collectivement à être vacciné, qui se faisaient vacciner. La question, c'est est-ce qu'il y a un plafond irréductible en dessous duquel on n'arrive pas à aller, et ça c'est le défi de ces prochains mois. On voit que c'est le défi auquel sont confrontés aujourd'hui un pays comme les États-Unis. Après, juste un mot sur la géopolitique, parce que oui, c'est vrai que ce grand combat contre la pandémie a été aussi un combat géopolitique dont on a cru à un moment qu'il allait se solder par une victoire éclatante de la Chine. Au final, on voit que la qualité du vaccin chinois n'est pas exactement la même que celle, notamment dans la lutte contre les variants, que celle des autres vaccins. Et on voit que dans le soutien très important que Natacha évoquait aux pays pauvres, aux pays en développement, les pays européens ont plutôt été, avec retard, mais ont plutôt été davantage là que les Chinois.
La campagne vaccinale se poursuit. Natacha, pour vous, le fait marquant de l'année, il n'y a eu aucune hésitation. C'était le 16 octobre 2020, l'attentat djihadiste de Conflans-Sainte-Honorine et la décapitation de Samuel Paty.
C'est très grave et qu'on doit venir se rassembler pour protester contre cette barbarie et cette violence, enfin, que c'est pas normal. Je trouve qu'il faut, au contraire, continuer encore à apprendre. Pas qu'ils gagnent, sinon eux, ils vont gagner. Sinon, les terroristes, eux, ils vont gagner. Ils vont dire, voilà, on les a tués, et eux, maintenant, ils apprennent plus, ils veulent plus revenir. Non, au contraire, il faut continuer à venir, faut pas lâcher.
Papé Biram, 12 ans, qu'on avait déjà entendu donc à l'automne dernier, qui parlait donc de son expérience et surtout de son émotion après l'assassinat de Samuel Paty, son prof d'histoire géo, qui était donc tué, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Natacha.
Oui, je pense qu'il faut se répéter tous les jours que nous vivons dans un pays où un professeur a été décapité pour avoir montré des dessins et pour avoir tout simplement fait son métier. C'est-à-dire pour avoir joué son rôle, rempli sa mission, qui était de faire réfléchir ses élèves sur la liberté, sur la caricature, sur tout simplement la possibilité qui est au cœur de nos sociétés, et en particulier de la civilisation européenne, et en particulier de la culture française, la possibilité de s'émanciper des dogmatismes et de penser par soi-même. C'est encore une fois un professeur décapité. On a tendance à oublier ce que ça signifie. Or, il y a dans cet attentat un condensé d'absolument tout ce qui est en train de fracturer, d'abîmer la société française. Parce que il y a évidemment l'assassin de Samuel Paty, un jeune Tchétchène de 18 ans, Abdullah Kanzorov, dont on peut retracer le parcours. Oui. Mais il y a derrière le rôle des réseaux sociaux, on s'en souvient. Il y a derrière la pression d'un parent d'élève au nom de sa conception de ce qu'on a le droit de montrer ou pas aux enfants. Il y a tout cela, c'est-à-dire la place de l'école et de l'institution, la possibilité pour la nation de décider de ce qu'on va transmettre aux enfants, et la lutte entre cette idée d'une nation qui se constitue à travers l'école et les conceptions individuelles qui entrent en conflit. Il y a tout ça derrière. Il y a évidemment l'intégrisme religieux et une vision totalement fermée de l'islam porté par ce père de famille, par celui qui l'a encadré et qui est un militant islamiste. Voilà, tout ça, et puis la peur, la lâcheté parfois de l'institution.
Mais justement, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est le signe ou l'occasion d'un réveil, peut-être, cette année, ou est-ce que c'est justement le signe de la lâcheté et de renoncement?
Pardon, mais moi, je suis un petit peu consternée d'entendre à chaque fois, c'est vrai, la question de savoir si ça va être un réveil. Enfin, en 2015, on a des dessinateurs qui ont été massacrés pour avoir dessiné. Cabu, qui dessinait dans les émissions pour enfants, voilà, qui était un grand gamin, Stinius, pareil, qui était Bernard Maris, ces gens ont été massacrés. On pensait que plus rien ne serait comme avant. Il y avait jeudi matin sur France Inter un zoom qui montrait les témoignages des survivants du Bataclan qui vont dans les lycées pour expliquer aux jeunes ce qu'ils ont vécu. Mais c'est pareil, enfin 130 morts. Donc à chaque fois, on se dit, là, va y avoir une prise de conscience. Ben non.
Et pourtant non.
En fait, non. Et surtout, la différence dans le cas de l'assassinat de Samuel Paty, c'est qu'on n'est pas face à un attentat organisé de l'extérieur, une force projetée. On est face à une mécanique qui est celle de l'intolérance, de l'intégrisme, amplifié par les réseaux sociaux, ce qui est beaucoup plus compliqué, en fait, et beaucoup plus dangereux, parce que ça peut se répéter assez facilement. Des gens qui se persuadent qu'ils sont dans leur bon droit, que ce qui a été fait est scandaleux, et que la République française n'a pas à transmettre les valeurs qui sont les siennes, parce que c'est ça l'enjeu.
Le duel continue sur France Inter.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Deuxième temps du débat, la personnalité de l'année. La personnalité de l'année, pour vous, Gilles, c'est un commander-in-chief, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, le nouveau président américain, Joe Biden.
Chers invités, mes chers compatriotes, voilà la journée de l'Amérique. C'est la journée de la démocratie. C'est un jour historique, un jour d'espérance, de renouveau. Un jour symbolique pour l'histoire. L'Amérique a encore une fois été testée et encore une fois l'Amérique a surmonté le défi. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe, non pas d'un candidat, mais d'une cause, la cause de la démocratie.
C'était Joe Biden le mercredi 20 janvier devant le Capitole à Washington DC au moment de prononcer son discours d'investiture. Pourquoi avoir retenu cette personnalité-là, Gilles ?
Alors, pas seulement parce que pour cette dernière émission avant l'été, pour terminer sur une note d'espoir, sur une note positive, pas seulement en raison des premières décisions qui ont été prises depuis maintenant 6 mois par Joe Biden, mais pour deux autres raisons. La première, c'est que je crois que ça marque symboliquement la fin d'un cycle idéologique de 40 ans qui avait été ouvert par l'élection de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, et d'un cycle néolibéral dont il se termine pas brutalement là. Il avait même déjà commencé à prendre du plomb dans l'aile après la crise financière, mais dont l'élection de Joe Biden marque, je crois, quand même une étape. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est le signe de la possibilité de la défaite des populistes, d'un populiste, de pas n'importe lequel qui était Donald Trump, de pas dans n'importe quel pays qui était les États-Unis, et qui a éviter, je crois, ce qui aurait été une calamité, qui aurait été sa réélection. Vous savez, on demandait au vieux premier ministre britannique conservateur Benjamin Disraeli, c'est quoi la différence entre une catastrophe et une calamité?
Oui.
Et Disraeli, qui avait la dent dure et qui avait un ennemi qui était le leader libéral Gladstone, disait, si Gladstone tombe dans la Tamise, c'est une catastrophe. Si on le repêche, c'est une calamité. Eh ben, lorsque un populiste est élu, c'est une catastrophe. S'il est réélu, c'est une calamité, parce que le deuxième mandat est, on l'a vu dans d'autres pays, le mandat dans lequel tout devient possible. Et quand on voit les bases sur lesquelles était parti le premier mandat de Donald Trump, je crois que tous les jours, on peut remercier Joe Biden de l'avoir battu.
Vous partagez la Biden-mania, Natacha ?
C'est pas une question de Biden-mania, c'est tout ce que vient de dire Gilles. Non, mais est je tout à fait juste.
C'est
il
le
y a
mot qui s'est imposé.
Ce qui est en train de se passer, en effet, est la fin d'un cycle, le début d'un autre dont nous ne savons pas encore de quoi il sera fait. Joe Biden est à la fois le début de quelque chose, mais aussi l'incarnation de la perpétuation de certaines choses. On en a déjà parlé ici, la question de ce messianisme des démocrates américains, dont je ne suis pas sûre qu'il faille se réjouir. La question, donc, en fait, ce qui s'ouvre, le cycle qui s'ouvre là, est un cycle qui va être essentiel pour les pays européens, puisque il pose la question de savoir si l'Union européenne va réussir à exister face aux États-Unis de Joe Biden, à côté, indépendamment, pas contre, mais indépendamment. Or, il y a des enseignements à tirer, en effet, ce que fait Joe Biden en politique intérieure est tout à fait intéressant sur le plan économique, il y a énormément de choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément, hein. Personnellement, j'étais beaucoup plus pessimiste sur la possibilité de la part de Joe Biden d'apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant économiquement. De fait, je n'y croyais pas parce que j'étais trop habituée à ce qu'étaient les démocrates américains sur ce plan-là, mea culpa. Il va falloir voir sur la suite, mais en effet, il y a des choses extrêmement intéressantes. En revanche, le risque d'une Biden-mania, ce serait de nous croire des Américains et d'oublier que les intérêts des citoyens des pays européens ne sont pas ceux des citoyens américains et que les États-Unis, même avec un président comme Joe Biden, si sympathique soit-il, si formidable soit-il, ne sont pas des alliés à égalité et ils n'ont aucune intention de nous traiter comme tels.
Joe Biden, social-démocrate ?
Sur ce qui a été fait, on avait discuté à plusieurs reprises avec Natacha. En fait, ce qui est important, c'est le travail que les démocrates, que le parti démocrate américain a fait depuis la défaite de Donald Trump, dont nous avait parlé Célia Belin ici, avec son livre « Des démocrates en Amérique ». Sur ce qui va être fait, je partage les interrogations de Natacha et d'une certaine manière, c'est moins Joe Biden l'événement que l'élection de Joe Biden et ce qu'elle représente.
Il est temps maintenant de passer à la personnalité de l'année. Pour vous, Natacha, il a 53 ans de moins que Joe Biden. Il s'appelle Guillaume Rozier. Il a inventé des outils qui ont totalement changé la manière de vivre la pandémie. Covid Tracker, VitmaDose par exemple.
Covid Tracker, c'est un site qui permet de suivre l'épidémie, donc qui permet de voir où l'épidémie se développe en France, dans quelle région, dans quel département, dans quelle tranche d'âge. Donc ça permet vraiment de voir comment progresse l'épidémie, est-ce qu'elle progresse vite, est-ce qu'elle progresse pas vite, et où est-ce qu'elle progresse pour essayer d'anticiper les mesures qu'on va prendre.
Pourquoi Guillaume Rozier, jeune ingénieur de 25 ans, Natacha ?
Parce que je trouve qu'il concentre énormément de choses très intéressantes. Dans une année, en effet, où nous avons été confrontés à l'inconnu, à ce à quoi nous ne nous attendions pas, tout à coup, on a ce jeune homme qui prend en charge quelque chose qui aurait dû être pris en charge par l'État. C'est le premier point. C'est-à-dire que on pourrait le traiter du point de vue de la défaillance de l'État. Eh bien, grâce à Guillaume Rozier, on peut le traiter du point de vue de l'initiative individuelle de gens qui mettent des outils gratuitement au service de la collectivité et on ne peut que se réjouir que ça ait pu se passer comme ça.
Ça tombe bien en période de silence électoral.
Exactement.
De présenter les choses comme ça.
Voilà, et ça permet aussi de réfléchir au poids absolument majeur que les data vont avoir dans l'avenir et la question de savoir si ces data sont accessibles au plus grand nombre, s'il y a une liberté de les mettre en commun pour faire avancer les connaissances, pour prendre des choix collectivement, me semble un enjeu absolument fondamental. C'est pour ça que je trouvais, il ne s'agit pas de glorifier et d'héroïser une personne, mais à travers ce garçon, de réfléchir à tout ce qui nous attend dans l'avenir.
Guillaume Rozier, en un mot ?
En un mot, c'est la question de l'articulation du public et du privé et l'importance de ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire le fait que notamment l'État mette à la disposition de chacun les données publiques. C'est un sujet sur lequel la France avait et a encore sur beaucoup de points du retard et on voit l'utilité de cette open data. Après, le petit risque, hein, c'est que ce que l'on offre à Guillaume Rosier, ce soit une médaille, l'Ordre national du mérite, quand au même moment, le patron d'appel lui offrait un contrat.
Tim Cook, PDG d'appel, effectivement, l'un vaut plus que l'autre.
On verra.
Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Et on va terminer le duel avec le livre de l'année. Et pour vous, Natacha, c'est un livre d'ailleurs qu'on a pu entendre sur Inter.
Il y a aussi ce visage d'ange, beauté satanique, regard d'oracle. Et puis, sans doute, cette vie de douleur et d'aventure. Une vie sans joie, courte, heurtée, un parcours comme une errance. Des amis nombreux, mais des amitiés pas solides. L'amour flambe en torchère. Tout se consume au contact d'Arthur.
Vous avez reconnu la voix de Sylvain Tesson qui avait passé sur Inter un été avec Rimbaud. Pourquoi, Natacha, avoir voulu revenir sur cette série radio qui est devenue un livre très accessible d'ailleurs?
Tout simplement parce que au moment de clore cette saison avec vous, je me suis dit que nous
c'était
avons débattu.
C'était une saison en enfer.
Nous avons débattu de tout ce qui agite la société. Nous avons parlé politique, géopolitique, économie. Et nous parlons peu, parce que ce n'est pas le lieu de cette émission, littérature. Or, si les auditeurs de France Inter, pour certains, ont écouté cette série, Un été avec Rimbaud, ils auront compris que ce que nous raconte Sylvain Tesson de Rimbaud, dans ce petit livre qui, en effet, est un outil absolument extraordinaire, un plaisir de chaque instant, c'est à quel point un jeune homme de 17 ans a voulu reconstruire le monde à travers le verbe, à travers les mots. C'est-à-dire ce que Rimbaud, et c'est toute la force de Tesson, c'est de nous expliquer, Rimbaud, ça ne se traduit pas, ne s'explique pas, il ne s'agit pas d'essayer de comprendre les illuminations, personne ne peut comprendre les illuminations. C'est un choc, c'est une puissance de simplement de la langue. Et cette force
et du
langage
raisonné de tous les sens.
Oui, à travers, traduit par la langue. Et rappeler la puissance du langage, de ce que l'être humain peut faire par la force des mots, me semble aujourd'hui absolument nécessaire. C'est la liberté absolue, c'est ça que prouve Rimbaud et c'est ça que Sylvain Tesson raconte à merveille.
Très bon conseil. Hein, Gilles, votre livre de l'année.
Moi, j'ai revisité les invités que nous avons reçus tout au long de cette saison et des livres qu'ils nous ont proposés. Il y a une rencontre, moi, qui m'a marqué dans cette année, qui était celle avec Souleymane Bachir Diagne, dont
bien
j'ai
sûr
trouvé
philosophe sénégalais.
Voilà, que c'est, à la fois son parcours, sa personnalité, son humanité était formidable. Et si je voulais retenir un livre, en fait, j'en ai retenu trois pour être un mauvais élève.
Donc c'était, le fagot de ma mémoire.
Oui, c'était celui sur la nation de Pascal Horry, celui sur les lumières de Corinne Pelluchon et celui sur la laïcité de Patrick Veil. Et ce que ces trois livres ont en commun, c'est qu'ils viennent revisiter les grands concepts autour desquels nous réfléchissons et qui viennent les nourrir d'une autre manière, celui sur la nation par une vision extraordinairement comparative avec Pascal Horry, celui sur les lumières avec l'introduction de la question environnementale et la laïcité avec un retour sur l'histoire. Et donc, ça fait des bonnes lectures de vacances.
Et ils seront évidemment tous ces livres notés sur le site du Grand Face à Face. On passe tout de suite au débat.
France Inter, le Grand Face à Face, le débat.
Où allons-nous? Je vous le disais, c'était la question qui était le fil rouge du livre L'archipel français de Jérôme Fourquet. Il y montrait les changements des dernières décennies. Tout ce qui avait fracturé, disloqué une nation qu'il disait unie, structurée par des référentiels communs, indivisibles. Où allons-nous? C'est aussi, d'une certaine manière, ce qu'a étudié notre invité sur un temps plus court. Un an et demi pendant la pandémie, les habitudes, les imaginaires, les décisions que nous avons prises, déménager, consommer mieux, se séparer. Et si ce quotidien sous Covid avait fait émerger une nouvelle société? On va en débattre avec notre invité. Elle est sociologue, politologue, prof à Sciences Po et à l'Université Paris-Descartes. Elle est aussi la directrice générale de l'OBSOCO, Observatoire Société et consommation. Bonjour Guénée Algo.
Bonjour.
Et bienvenue. Ça fait un an et demi maintenant que vous nous observez, que vous observez les Français dans cette crise, les conséquences directes de la pandémie sur nos vies, ce qui a été aussi accéléré par la pandémie et les restrictions. Il y a beaucoup de chercheurs et d'intellectuels qui observent ce qui disparaît. Vous, vous concentrez votre attention à ce qui émerge, à ce qui est nouveau. Juste avant de vous donner la parole et de vous interroger sur les phénomènes assez fascinants d'ailleurs que vous avez dévoilés dans votre étude, Gilles, un mot pour présenter la démarche de Guénée Algo.
Non, je crois que ce qui est passionnant avec ce que fait Guénée Algo et ce que fait l'OBSOCO, c'est que il ne se concentre pas seulement sur les opinions et sur les perceptions, mais il rentre en profondeur dans nos modes de vie et essaye de confronter ce que nous disons et ce que nous faisons. Parce que parfois, il y a un écart entre les deux.
Et justement, vous avez donc choisi d'observer les décisions prises par de très nombreux Français. Et alors du coup, on peut étudier les contraintes, l'évolution de la consommation. Et du coup, ça permet de relire les événements, de voir l'économie à travers une grille plus politique. Et vous avez montré que la crise avait accentué les clivages. Je citais l'archipel français de Jérôme Fourquet tout à l'heure, mais parce qu'il montrait justement ces divisions ou ces fractures qui parcouraient la société française. Vous dites que c'est allé encore plus loin, à savoir que ce qu'on a pu observer depuis un an et demi, c'est déménager, se séparer, bref, en tout cas, faire autre chose qu'être ensemble.
Pas complètement. En fait, c'est vrai, comme vous le disiez, alors moi je souscris complètement à ce que dit Jérôme Fourquet, à ce qu'il analyse sur ce qui disparaît, sur ce qui se fracture. Je pense important, et puis surtout pour avoir prise aussi, et puis pour avoir du levier sur l'action et agir, de se concentrer aussi, enfin d'avoir les deux, de ne pas être hémiplégique en fait, et d'avoir le côté aussi de ce qui émerge et de ce que l'on peut observer. Alors, c'est vrai que là, on a une crise sanitaire qui a impacté nos vies. Ce qu'on a demandé aux Français, qu'on observe depuis un an et demi, mais qu'on observe depuis un petit peu plus longtemps quand même, c'est voilà, quelles décisions ils avaient prises. Et on leur a demandé, est-ce que vous avez pris ces décisions directement du fait de la crise? Est-ce que ça a accéléré des choses auxquelles vous pensiez avant? Ou est-ce que ça n'avait rien à voir avec la crise? Mais on leur a posé ces questions-là. Et en fait, oui, il y a une proportion importante. En fait, alors, on les a reprojetés en volume. C'est-à-dire que d'habitude...
En extrapolant.
Voilà, en extrapolant. D'habitude, vous savez, les sondages, c'est faire des France en petit. Et oui, là, on a reprojeté en grand parce que ce sont des petits pourcentages et souvent, on s'intéresse aux faits majoritaires. Souvent, on a tôt fait de dire 51% des personnes qui répondent à un sondage, ce sont tous les Français. En fait, non, là, il y a une petite proportion. Alors, ça va de 3, 5, 10, 30%. Et donc, ça fait quand même des pourcentages qui sont pas... Mais quand on projette, ça fait des millions.
Ça fait des millions. Et justement, millions. Alors j'aimerais juste que citer quelques-uns des résultats de l'étude pour en tirer les conclusions et débattre de la société que ça pourrait laisser deviner émerger. Par exemple, quand on demande quelles sont les intentions des Français, ils ont décidé de changer de vie. 1 200 000 personnes ont ainsi l'intention de se séparer de leur conjoint ou de leur conjointe.
Du fait de la crise.
Considérable, du fait de la crise. 2 600 000 ont l'intention de changer de travail et de déménager. C'est aussi considérable. Ils affirment également vouloir consommer autrement. Et là, pour le coup, on est dans des ordres de grandeur gigantesques, puisqu'on est près de 9 millions de personnes. Et enfin, beaucoup souhaitent se recentrer. Et alors, comment est-ce qu'on se recentre, puisque c'est un mot à la mode, près de 8 millions ont décidé de cesser de consulter l'actualité, par exemple. Mmh. C'est intéressant. Mmh. 6 600 000 ont décidé de se mettre au sport, et pourtant on n'est pas le 31 décembre à minuit quand on prend les grandes résolutions. Et ils sont très nombreux également, 3 millions, à vouloir surveiller et limiter leur temps de connexion Internet. Qu'est-ce que ça dit, tous ces phénomènes mis bout à bout, de cette société qui se devine? Est-ce que c'est l'accélération de processus qui était déjà là avant, ou est-ce qu'on est vraiment face à un moment de rupture?
Alors, Gana Elgo. Oui, justement, je vous disais qu'on avait essayé de départir ce qui relève de la crise et ce qui relève de ce qu'il y avait déjà avant. Et la plupart de ces décisions, en fait, les gens nous disent « j'y songeais déjà avant », donc il y avait déjà un processus. Ils ont probablement lu la crise à l'aune de leur grille de lecture et ils ont activé, en fait, ou accéléré des décisions qui étaient déjà là, en fait, en germe. Donc, et nous, c'est ce qu'on voyait dans nos études. Quand on regardait un peu le rapport des gens, par exemple, à leur mode de vie, comme le disait Gilles, à leur qualité de vie, à la ville, à leur alimentation, toutes ces choses-là, on voyait déjà qu'il y avait, à la consommation, on voyait déjà qu'il y avait des choses qui se passaient. Il y a deux ans, on a fait une étude sur leurs imaginaires. En fait, on étudiait à la fois du côté les imaginaires et puis leur mode de vie très concret.
Oui.
C'est intéressant parce que, en fait, les comportements, c'est un compromis entre des imaginaires, des aspirations et puis des contraintes. Et là, à la croisée de ça, en fait, il y a les comportements. Alors c'est vrai qu'après il y a des tensions, hein. Toutes ces décisions, eh bien elles se transformeront pas forcément parce qu'il y a des contraintes. Mais c'est intéressant de mesurer ça. Et il y a deux ans, on avait mesuré, on avait regardé un petit peu ce qu'il était de leurs imaginaires. Je vous le fais rapide parce que c'était, mais tout est disponible et c'est assez,
oui,
passionnant.
Sur votre site.
En fait, on avait à un moment donné étudié notamment trois grandes utopies, trois grands systèmes utopiques, et il y avait l'utopie qu'on a appelé techno-libéral, qui était un peu l'utopie, la prolongation de l'utopie moderne qui a présidé l'aune du XXe siècle, quoi. C'est-à-dire le progrès, la technologie, l'économie, en fait, qui régule les rapports sociaux, etc.
L'individualisme.
Voilà. Ça ne remportait pas l'assentiment. Alors, on avait pas mal de façons de calculer les choses, mais en tout cas, c'était une minorité, une très grande minorité de Français qui était pour la prolongation, finalement, de ce monde. Et on comprend pourquoi il y a eu toutes les discussions sur le monde d'avant, le monde d'après. Et puis, il y avait l'utopie sécuritaire identitaire, une façon de se protéger, de se renfermer, de se réinventer, en fait, un passé, un âge d'or, et puis contre un peu l'extérieur qui nous agresse. Et puis, il y avait l'utopie un peu écologique. On l'avait appelée écologique, mais au sens pas politique, hein, du terme, hein, une sorte de société de moins mais mieux, en fait, une société où justement on refaisait du lien, où on considérait la nature autrement, l'autre, et puis où justement la consommation, on étudiait aussi beaucoup la consommation, le désir de consommation se déplaçait un peu de l'avoir, l'accumulation matérielle, en fait, à l'être et l'expression de soi. Et ça, c'était 55% des Français qui étaient là-dedans. Et donc un désir de ralentir aussi, de refaire du lien localement.
Oui.
Et ça, en fait, on voit que la crise arrivant là-dessus, finalement, il y a eu toutes ces discussions à Nantes sur le monde d'avant. Le monde d'avant, c'est difficile de refaire le monde. Par contre, on peut changer à l'aune individuelle. Après, là où ça pose problème aussi, c'est que tous ces gens qui ont pris ces décisions-là, ils ont aussi les moyens de le faire. Les ressources pour le faire, pas seulement les ressources matérielles, mais aussi les ressources sociales, les ressources spirituelles même, les ressources... Et là, c'est là où ça accentue les clivages, parce que c'est des aspirations que beaucoup partagent, qu'une partie seulement peuvent transformer, et puis une autre partie, en revanche, ne le peut pas. Et il va sans doute y avoir une augmentation aussi de ce que Cynthia Fleury appelle par exemple le ressentiment, et qui est quand même très profond dans notre société.
Qui est le titre de son dernier livre, et c'est passionnant d'ailleurs de penser les utopies et de voir ensuite les décisions contre lesquelles on peut s'élever, mais les décisions qu'ont prises les Français. Natacha Polony.
Il y a dans les différentes thématiques que vous abordez peut-être des choses qui sont de différents ordres, il me semble. C'est-à-dire que on s'aperçoit qu'en effet, comme vous le disiez, la crise a agi comme une sorte de révélateur, c'est-à-dire que peut-être que d'être confronté à la mort, à l'incertitude, a permis à chacun de comprendre quel était l'essentiel pour lui et de vous le disiez, de refuser les contraintes. Mais n'y a-t-il pas une différence entre se dire qu'on va se recentrer, maîtriser sa vie, c'est-à-dire maîtriser sa consommation, c'est-à-dire choisir là où on va vivre, etc. Et puis la question, par exemple, des divorces. Quand 1,2 million de personnes envisagent de se séparer de leur conjoint, il y a là quelque chose qu'on peut lire comme la conséquence de la souffrance qu'a engendré le confinement, qui a été extrêmement violent, qui a déstructuré la société. C'est pas exactement du même ordre qu'un retour de la maîtrise. Et avec derrière des problématiques qui vont être majeures, parce qu'en fait, derrière les divorces, il y a des questions pragmatique, économique, c'est-à-dire que ça pose des problèmes de logement, ça pose des problèmes de paupérisation, puisque ce sont en général les femmes qui se retrouvent seules avec les enfants, ça pose des problèmes d'organisation des villes, ça pose des problèmes de garde d'enfants, enfin, il y a toute une politique à mettre en œuvre derrière qui va être la conséquence de cette souffrance. Est-ce que là, on peut pas se dire que on n'est plus tout à fait, en effet, dans l'idée de la reprise en main. On est vraiment dans les conséquences dramatiques de cette crise.
Je vous rejoins complètement. Il y avait différentes décisions. Mm-hmm. C'était assez hétérogène. Peut-être que c'est pas complètement de la reprise en main. C'est peut-être quand même le désir de ne plus subir certaines formes de relations. Oui. Mais je vous rejoins complètement sur les conséquences que cela engendre, et notamment d'un sujet alors qu'on étudie par ailleurs et dont on parle pas beaucoup. Vous avez raison. C'est les familles monoparentales. Et les familles monoparentales qui représentent quand même près de plus d'une famille sur 10. La plupart du temps monoparentale, et c'est la mère qui garde les enfants, et qui c'est important parce que c'est un public qui est justement au bord en fait du décrochage, en fait, souvent qui est sur la ligne de crête. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est-à-dire toutes ces décisions, alors celle-ci mais aussi toutes les autres, elles devraient amener en tout cas je l'espère les pouvoirs publics mais aussi les entreprises en fait à innover, à trouver en fait comment accompagner ces Français dans ces choix, et comment accompagner les autres qui ne peuvent pas les faire.
Oui, c'est ça. Gilles.
Pour partie liée à cette volonté, à plus d'un million de Français qui décident de se séparer, et puis pour partie indépendant, il y a la volonté de déménager. On a vu à l'occasion du confinement et plus largement de la pandémie l'importance du logement. On a découvert que une grosse majorité de Français, 63%, vivaient dans des maisons avec jardin, et que pour ceux qui ne vivaient pas dans des maisons avec jardin, qui vivaient notamment dans les métropoles, a fortiori lorsqu'ils étaient dans des endroits petits, lorsqu'ils étaient nombreux, que le confinement était difficile. Et donc il y a eu ce chiffre qui est spectaculaire, 2,6 millions qui décident de déménager.
2,6 millions de Français ont décidé de déménager dans l'année et demie qui vient de s'écouler, c'est considérable.
Alors ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de ces décisions, de ces volontés sont d'aller dans des villes moyennes.
Oui.
Alors on peut y voir un effet positif, c'est une revitalisation des villes moyennes qui ont beaucoup souffert. On peut voir les temps que ça risque de produire par une sorte d'effet d'éviction à cause de l'augmentation des prix pour ceux qui sont déjà sur place. Mais ils choisissent d'aller malgré tout en ville. Pourquoi ?
Gaëlle Go.
C'est ce qu'on observait en fait avant cette crise. On observait monter en puissance le désir de d'autrement en général, d'autrement de la consommation, d'autrement de l'alimentation et d'autrement de l'habiter. Et on avait vu que en fait la qualité de vie était très corrélée à la densité perçue, qui d'ailleurs était très en ligne avec la densité réelle. Et donc plus on vivait dans un environnement dense, en fait, moins on avait le sentiment de vivre bien. Et donc, en fait, déjà, tous les gens qui étaient dans les hyper-villes manifestaient le désir de partir ailleurs. Ce qui s'est passé pendant la crise, et souvent, en fait, c'était des catégories socio-professionnelles plutôt privilégiées, qui, pendant la crise, ont été aussi ceux qui étaient, d'une certaine manière, privilégiés aussi parce qu'ils ont pu télétravailler. Le télétravail impacte en fait directement ces choix-là aussi parce que, on peut aller vivre plus loin que là où on travaille. Alors qu'avant c'était une contrainte, il y avait la contrainte du ce qu'on appelle maintenant le présentiel. Donc on va s'en. Par contre, ces populations ne veulent pas renoncer à un certain nombre d'aménités et à l'offre justement. Alors il y a évidemment les écoles des enfants, mais il y a aussi les services, les commerces, les structures publiques. Et donc quand on parle d'aller vivre ailleurs, on n'est pas du tout dans le mythe du Larzac ou de la Creuse, même s'il y a un petit
flux. On agit comme un consommateur qui compare.
On compare et on a envie d'être dans un tissu où il y a suffisamment. Mais on descend d'un cran, en fait. On descend d'un cran pour descendre aussi d'un cran en termes de pression.
Ce qu'il va falloir observer, me semble-t-il, dans les années qui viennent, d'abord, c'est la question de l'effectivité du changement de vie, c'est-à-dire ceux qui déménagent effectivement, ceux qui persistent dans leur choix et qui vont rester. Mais surtout, il me semble que sur cette question des villes moyennes, il va falloir regarder quelles sont les villes moyennes qui vont être revitalisées. Parce qu'en fait, il me semble que le phénomène que vous décrivez, c'est le risque d'une revitalisation des villes moyennes qui sont en fait dans la sphère d'une métropole. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le phénomène qu'on connaît déjà depuis quelques années, c'est Vendôme, où vous avez des gens qui vivent, mais qui travaillent à Paris en télétravail et qui vont à Paris régulièrement. Ce qu'on peut faire aussi depuis une ville comme Chartres ou depuis... de plus en plus depuis Tours, qui autrefois était plus éloignée. Donc, la question, c'est est-ce que ça redistribue réellement les cartes? Est-ce que ça va revitaliser l'ensemble du territoire? Ou est-ce que ça va, une fois de plus, créer des déséquilibres? Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, les villes moyennes qui sont réellement ailleurs n'auront toujours pas d'emploi, n'auront toujours pas de vitalité, et on va se retrouver avec des territoires déséquilibrés.
Guina Hugo.
Là encore, je vous rejoins complètement, c'est-à-dire c'est en train de faire une petite tectonique des plaques, et c'est aussi pour ça qu'on essaie de montrer ce qui est en train de se passer, parce qu'il faut s'y préparer à ça, et il faut se préparer aussi bien à accueillir ces gens-là que à justement maintenir des équilibres entre des territoires vers lesquels ils ne vont pas aller. On voit bien comment les flux, en fait, et les petits flux se déplacent. Et donc là, on voit très bien les villes, comment très vite elles peuvent mettre le paquet sur la fibre, sur tout d'un coup la culture, enfin tout ce qui va attirer ces ménages-là. Et puis au risque de déséquilibre intra, et puis entre ces petites villes moyennes et puis les autres qui, elles, restent dans des périphéries plus éloignées.
Mais si ça se confirme, est-ce que c'est de nature à rebattre les cartes, et puisque c'est un sujet qui revient régulièrement dans la vie intellectuelle et dans le débat public, celui de la France périphérique, celui de la France fracturée, est-ce que ce sont d'autres lignes de fracture qui vont apparaître, ou est-ce que c'est l'approfondissement des mêmes que décrit par exemple Christophe Guillouis depuis maintenant des années?
Alors ça risque d'approfondir ce que raconte plutôt Goudart, c'est-à-dire ceux qui vont avoir le choix de bouger et ceux qui vont pas avoir le choix de bouger. Et en fait c'est ça. Mais aussi pour rebondir sur ce que vous disiez, Natacha, enfin entre qu'est-ce qui est effectif et qui le sera pas, je pense qu'elle en voit déjà des choses effectives, et c'était aussi un peu pour objectiver ça, c'est-à-dire qu'on voit déjà
entre
par exemple
l'intuition, oui, qu'on peut
les prix à Angers, une heure et demie de Paris, plus 22% en un an. On voit aussi sur le plan du travail, ceux qui ont décidé de changer de travail, changer d'orientation. On voit bien que le secteur de la restauration manquait 100 000 personnes avant la crise. Maintenant, il manque 250 000 personnes parce que les gens se sont dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En fait, ils ont passé du temps avec leur famille, ils ont commencé, comme vous le disiez aussi, c'est-à-dire qu'ils ont réévalué leurs priorités de vie. Et donc, la hiérarchie des priorités a changé. Après, ce qui
ça,
est intéressant...
C'est intéressant parce que ça définit une nouvelle manière de vivre son individualité.
Oui, tout à fait.
Alors précisément, il y a un mot que vous avez beaucoup utilisé qui est le mot « autrement ». Ce désir d'autrement, de vivre autrement, d'habiter autrement. Il y a aussi un désir de consommer autrement. Vous parlez de frugalité. Est-ce que quand on voit... Ou est-ce que c'est une réalité, ce que l'on a l'impression de voir peut-être, le rebond de la consommation depuis le déconfinement? Est-ce qu'on est dans la frugalité? Vous parlez de responsabilité, manger davantage en fonction des saisons, se préoccuper de ce que font les marques.
Ah, c'est Natacha.
Et vous parlez aussi, j'aimerais que vous explicitiez ce concept de customisation de la consommation. Ça veut dire quoi?
Ben merci déjà de m'avoir lu. En fait, tout ça renvoie à une sorte de petite révolution justement culturelle qui a trait aux aspirations dont on parlait tout à l'heure, qui est liée aussi aux imaginaires. C'est-à-dire que, mais je parle pas de frugalité. Je pense que les désirs se déplacent un peu. Il y a toujours en fait un désir de consommation, mais c'est plus le même. C'est-à-dire que on est dans un changement, on est dans une transition.
Ça veut dire acheter le minimum?
Non,
ça veut dire manger mieux? Expliquez-nous.
Bah, alors, alors acheter le minimum en plus c'est très relatif, hein, donc pour les gens. Non, en fait ce qui se passe c'est que l'essentiel du XXe siècle, en fait, on était dans un modèle de développement économique où il y avait de la production, modèle capitaliste fordien, hein, production de masse, produits standardisés, à bas prix, en face l'émergence massive d'une classe moyenne, des besoins assez homogènes, au milieu la
et
grande
le mot
distribution.
Consuméricus était la figure dominante de nos sociétés.
Et tout ça, en fait, c'était une spirale qui était assez positive. Elle nous a sorti de la pénurie, nous a amené au confort, etc. Mais quand on a, pour une majorité d'entre nous, accès justement au confort, qu'est-ce qu'on fait ? Consommer plus, là, ce que nous disent les gens, consommer plus les rend pas plus heureux. Consommer plus de biens matériels. Et donc, ils nous disent, oui, je veux toujours consommer. Donc, la frugalité, c'est relatif. Oui, il y a des gens qu'on peut appeler décroissants. Mais ces gens-là, ils sont une petite, toute petite frange des consommateurs. C'est important de les considérer, bien sûr. Mais ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, ils veulent changer leur façon de consommer. On est plus, encore une fois, et quand on parle de customisation, alors souvent on entend c'est un buzzword marketing, et qui est plutôt de l'ordre de la personnalisation, etc. La vraie customisation, c'est un déplacement de la valeur, si vous voulez, des produits. La consommation, c'est pas le moment où les gens achètent, c'est le moment où ils font quelque chose avec ce qu'ils ont acheté. Et ils font de plus
en
plus de choses.
C'est personnaliser un vêtement. Donner un exemple très basique et
personnalisé, c'est détourné, c'est recyclé, c'est tout ça. Et c'est là où c'est intéressant.
Comme
Natacha
qui coud ses propres vêtements.
Oui. Avec des tissus fabriqués en France.
Et c'est admirable.
Et c'est là, ça rend les gens. En fait, c'est ça qui rend les gens heureux. Ce qui rendait les gens heureux au XXe siècle, c'était d'accumuler.
Il y a Gilles qui se marre.
Mais ça rend les gens heureux. Je ne sais pas si Gilles coud ses propres vêtements.
Non, mais Natacha est unique. Le mot consuméricus, il est toujours en forme et très présent dans nos sociétés. Et il faut voir le rebond de la consommation depuis la fin du confinement et des restrictions sanitaires.
Oui et non, enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un effet d'optique aussi sur le rebond de la consommation. C'est-à-dire là, il y a beaucoup de consommation de rattrapage, et puis il y a beaucoup de consommation d'expérientiel qui participe de ce changement de la consommation. C'est-à-dire que on va avant tout, en fait, on a envie de retrouver les autres. On va aller, c'est les terrasses, c'est les restaurants, c'est les vacances que l'on prépare, c'est tout ça, c'est l'expérience en fait. Mais c'est plus tellement accumuler les choses. Alors là, si évidemment, les vêtements, les enfants ont grandi. On a changé de saison, bien sûr, mais y a un petit effet d'optique là quand même.
Oui, il y a d'ailleurs une dimension assez intéressante dans la consommation, c'est le recyclage des objets de consommation, avec la question qu'on peut se poser, qui est, est-ce que tout ce que vous décrivez là va avoir un effet vertueux, notamment sur l'environnement ? On sait que la consommation de masse induit une destruction de la planète absolument tragique. Mais est-ce que le fait de, par exemple, revendre sur des sites les objets dont on n'a plus besoin, d'en acheter d'autres, c'est véritablement vertueux ? Ou est-ce qu'en fait, comme vous semblez l'initier, c'est tout simplement une modification de la consommation qui va induire un cycle toujours aussi important. Parce que à partir du moment où on revend des objets pour pouvoir s'en acheter d'autres, c'est finalement pour pouvoir en changer plus souvent. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce que vous nous décrivez, tout simplement une forme d'accélération de cette envie d'être toujours en phase avec soi-même, c'est-à-dire de changer tout le temps, de toujours être dans l'immédiateté. Vous voyez, en gros, est-ce qu'on change d'objet ou de vêtements comme on décide de se séparer de son conjoint parce que tout à coup, ça n'est plus en phase et puis quelques mois après, ça ne sera de nouveau plus en phase ? Ou est-ce que c'est vraiment un recentrage sur soi, sur le long terme ? Ou est-ce que c'est l'accélération ?
Je pense que justement, il y a des paradoxes, et puis il y a aussi une fragmentation de la consommation. Donc il y a sans doute un peu des consommateurs, enfin avec des profils différents. Mais cela étant, ce que les gens expriment de plus en plus à travers la consommation, et à travers, on parle de consommation responsable, mais on a étudié ce qu'était la consommation responsable, et c'est très polysémique hein, en fait pour les gens. Mais surtout, ce qui rejoint un peu tout le monde, mais ce qui rejoint un peu tout le monde aussi sur ce qu'on parlait tout à l'heure des territoires, des déménagements, c'est la recherche de sens, en fait. C'est quel sens je vais trouver. Et plus je vais pouvoir trouver du sens, plus ça va me nourrir et plus, plus épanoui je vais être. Donc, en fait, c'est là où il y a, c'est un petit peu le déplacement entre une l'économiste Philippe Moati parle d'un déplacement entre la consommation hédoniste, en fait, qui va satisfaire un besoin immédiat, et puis, hop, la satisfaction, elle va quand même être Et on le fait quand même tous, hein, parce qu'on est tous en... Et une consommation eudémonique qui va au contraire nourrir, en fait, la personne, le bien-être, le sens. Et on est quand même... On a ces contradictions. On est tous aussi en train... même pendant les soldes, on voit les gens ce qu'ils nous disent. Et voilà, enfin, ils sont tous en train d'essayer de faire la bonne affaire, mais tirer d'un parti, mais quand même d'un système qui perçoivent comme un peu prédateurs. Donc ils aimeraient en changer aussi. Et c'est un peu... on est en tension, en fait.
Et donc il y aurait bien un monde d'après par rupture avec le monde d'avant, d'une certaine manière.
Il y a une vie d'après,
ouais. Gilles.
Un des terrains sur lesquels s'exprime cette tension aussi est celui de notre rapport au numérique et aux écrans. S'il y a bien un domaine dans lequel il y a eu une accélération considérable des tendances, c'est le numérique. C'est vrai sur l'école, c'est vrai sur la santé, c'est vrai évidemment sur le travail, c'est vrai sur les loisirs. Et vous dites que il y a près de 3 millions de Français qui disent qu'ils veulent à la fois surveiller davantage et limiter leur utilisation des écrans. Ils vont le faire vraiment parce que je me souviens d'un livre d'un universitaire américain qui s'appelait « Tout le monde ment » et qui était notamment lié à ça. Par exemple, lorsque Netflix a été créé, Netflix demandait à ses abonnés les films qu'ils voulaient voir. Et puis, il s'est aperçu que les gens ne regardaient pas du tout les films qu'ils voulaient, qu'ils avaient dit vouloir voir. Et donc, à ce système, ils ont substitué un autre système qui est de leur proposer avec un algorithme et ça marche beaucoup mieux. Donc, est-ce que nous mentons ?
Je pense que oui, il y a ce qu'on appelle, nous, dans les études, un biais de désirabilité. Hein. On a envie de se rendre vraiment plus...
d'être une meilleure personne.
De se présenter sous son meilleur jour et même vis-à-vis de soi. Oui. Donc bien sûr, il y a ça. Après, je pense que effectivement, il y a une numérisation des modes de vie extrêmement rapide et une accélération de ça. Mais ça, comme le reste, en fait, je pense que ça produit des dissonances cognitives. C'est-à-dire entre ce que j'ai, ce à quoi j'aspire, et encore une fois, ce que je fais. Et alors, on peut se contenter de ça. Souvent, on voit des gens qui nous disent, regardez, les consommateurs sont, ou les citoyens d'ailleurs, sont paradoxaux. Et puis, on s'en tient là. Et puis, ça dédouane d'agir. Ou on peut se dire, justement, on va essayer d'aligner, de les aider à aligner leurs aspirations avec leurs comportements.
Mais alors, quel peut être le rôle des pouvoirs publics ? Est-ce qu'il est d'accompagner, justement, cette transition, ces transitions ?
Mais justement, il y a un domaine où Natacha, il me semble que le rôle des pouvoirs publics très vite devraient être actifs, c'est quand on voit que 2,6 millions de personnes veulent changer de travail, se réorienter. Ça veut quand même dire un échec majeur de l'orientation, de la capacité à présenter notamment les métiers manuels, etc. Puisque globalement, quand les gens veulent changer de travail, c'est qu'ils sortent de ce qu'on appelle un bullshit job pour trouver un métier qui a plus de sens, où on fabrique, où on produit, où on fait.
Après l'éloge de la couture, c'est l'éloge du carburateur.
Mais oui.
Et avant l'éloge de la méditation, puisque 3 700 000 Français ont dit vouloir se mettre à la méditation.
Oui, mais Gaël Gau nous a expliqué que tout cela apportait du bonheur.
En tout cas, en fait, c'est, oui, on change de registre de bonheur, oui.
C'est intéressant parce que du coup, ça permet de voir que l'archipélisation ou les divisions ne sont pas que négatives. Il y a aussi des prises de décision qui sont liées à la volonté de réinventer sa vie.
Vous savez,
puisqu'on parlait d'Arthur Rimbaud tout à l'heure, il y a un côté rimbaldien dans...
Non, mais une partie de la modernité et de l'ère moderne, alors il y a différents piliers, mais c'est l'individualisation. Et on a trop souvent, moi je l'ai souvent répété, on a trop souvent confondu l'individualisation avec l'individualisme en mettant ou en soulignant en fait la compétition entre les gens. Mais l'individualisation, c'est très positive aussi. Alors c'est vrai que ça produit une déconstruction d'une société assez traditionnelle où en fait les individus étaient plutôt assujettis à des groupes ou des identités qui leur étaient assignées. Et donc, l'autonomisation de l'individu, c'est quelque chose de positif. Mais ça doit être aussi accompagné. Ça doit être accompagné de constitution de ressources, de les aider à construire les ressources pour être des individus. Parce que, comme le disait Ehrenberg, c'est fatigant d'être soi. Et là, on voit bien qu'il y a même des tentations en termes d'individualisation de se réassigner dans des identités. Encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que l'individualisation produit tout autre chose que l'individualisme, mais le besoin de liens. Il faut recréer aussi des liens. C'est pour ça que les gens ont aussi envie de local.
C'est fatigant d'être soi, les amis ? Pas pour Cristiano Ronaldo, en tout cas, ou pour Karim Benzema. Mais en tout cas, merci infiniment, Genaël Gaud, de nous avoir accompagnés. C'était passionnant, c'est la fin de l'émission. Votre enquête est à lire sur le site d'Obsoco. Natacha et Gilles, passez un splendide été et rendez-vous évidemment à la rentrée. Merci à Mathilde Klatt et à tout son travail remarquable au cours de cette saison, avec à la réalisation la merveilleuse Marie Mérier, à la technique Loïc Frapsos, et à suivre le journal de 13h d'Inter.